pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Vatman à la technique. Voilà, bon ben un peu de retard mais on va finir un peu plus tard aussi, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. En première partie d'émission, Myriam Larache, aujourd'hui c'est bien jeudi, ouais, voilà. Elle va nous parler de quoi? De soccer, de football, CONCACAF et Alphonse Davis. Ok, le retour proche de Carey Price, peut-être c'est une question qui se pose. Et au golf, il y a le tournoi d'Augusta. Voilà, et le retour de Tiger Woods. En deuxième partie d'émission, je vais recevoir Éric Dussault, historien, conférencier, professeur, vulgarisateur et guide historique, qui va parler de son nouveau livre « Paris, moment phare et symbole ». Alors, je ne sais pas si on part musique, la musique est déjà passée. Voilà, on continue la pièce musicale ensuite. On va laisser le micro à Myriam pour qu'elle nous parle un peu de sport.
From a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. Yet when I come to her, that's where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, 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 crazy love. She give me love. To find some humor when I'm feeling low down. Yet when I come to her, when the sun goes down, she takes away my troubles, takes away my grief, takes away my heartache, right to sleep. She give me love, 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 love. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Yes, I need her in the daytime, and I need her in the night. And I wanna hold my arms around her, kiss and hug her tight. Yet when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yet it make me righteous. Ooh, and it makes me whole. Yet it make me mellow down to my soul. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. We'll be right back.
Maxi Priest, Crazy Love. Oui, Myriam Larèche est déjà au bout du fil. Long propos de la technique dispose, bien sûr, Myriam. Alors, c'est pour nous parler, voilà, du soccer de foot. Moi, je dis toujours foot, soccer pour les Nord-Américains, bien sûr. Et puis, le retour de, avec qui? CONCACAF, Alphonse Davis. Ok, bon, retour proche de Carey Price, c'est la question qui se pose. Et puis, il y a le tournoi d'Augusta, le retour de Tiger Woods. Voilà, alors, Myriam est mieux placée que moi pour nous donner les nouvelles, les nouveautés. Bonjour Myriam Larèche.
Bonjour Fulgence et bonjour à tous nos auditeurs sous ce jeudi pluvieux.
Oui, oui, tu peux bien le signifier. Hein.
Oh oui, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Hein,
c'est voilà, bon. C'est le temps du canard, comme on dit.
Alors, on va commencer effectivement avec le soccer Fulgence. Donc le Canada, le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Tiens, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui.
C'est ceux-là qui se battaient pour aller se qualifier au mondial. Hein.
Ouais, c'est pour le Qatar 2022.
Puis il y a encore une chance pour le Costa Rica, on le sait cet été.
Ah bon?
Donc c'est, ben oui, ils ont un match cet été pour peut-être y aller, y participer. Ils font partie de ceux qui sont dans l'Amérique du Sud.
Oui.
Alors, donc le Canada, le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica ont été placés dans le premier chapeau pour cette fois-ci le tirage au sort de la Ligue A des Nations de la CONCACAF qui va se passer lundi prochain. Donc ça y est, la saison commence pour les matchs. Alors l'équipe canadienne fera face contre l'une des sélections nationales suivantes au chapeau numéro 2, le Panama, la Jamaïque, le Salvador ou le Honduras. Et il a été promu de la Ligue B à la Ligue A, le Curaçao, le Suriname et la Grenade et la Martinique, figure-toi. Le Curaçao, une petite île perdue là-bas, ils sont promus en Ligue B.
Ben, c'est ce qui fait qu'on dit que le football, c'est le sport mondial, international,
exact,
universel.
Exact.
Voilà, ça se joue partout.
Partout, ça joue partout. Mmh. Alors, l'Unifolier a terminé deuxième, donc derrière les États-Unis. Pourtant, ils ont eu une fiche égale de 3 victoires, une défaite et un 0 match nul, je pense, dans le groupe A. Mais
oui,
les Américains ont un différentiel de buts, donc c'est pour ça qu'ils sont classés premiers, mieux qu'eux.
Oui.
Alors, la phase de groupe de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2022-2023 qui va commencer, donc, et qui va servir de qualification pour la Gold Cup 2023.
Oui.
Toujours dans le soccer, Alphonso Davis a été élu, figure-toi, la vedette de soccer canadien, a été nommé le joueur masculin par excellence, justement, par la CONCACAF pour l'année 2021, après avoir, dit-il, les dirigeants, aidé son pays à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois depuis 1986. On va l'entendre, cette phrase.
Ah oui, oui.
Donc, âgé de 21 ans et originaire d'Edmonton, Davis a participé à 7 duels durant donc ses qualifications en vue du mondial. Et on se rappellera sa séquence, n'est-ce pas, contre le Panama le 13 octobre dernier, où tout le monde était excité après un but spectaculaire. Donc Davis, ça manquait 6 matchs, on le sait, après avoir eu donc des symptômes de myocardite. Mais il est de retour, il a repris l'entraînement avec le Bayern Munich et il a dit qu'il s'y attendait à prendre bientôt correctement le collier. Voilà.
Alors, d'ailleurs, Myriam, c'était pour ça que le Bayern ne voulait pas le laisser venir pour les derniers matchs.
Bien sûr, voilà. C'est bien.
C'était pour ça.
Il voulait attendre que ça passe pour après lui dire tu peux revenir en entre.
Voilà, c'est ça.
Ils veulent pas maganer leur
joueur.
Comment dire ça? Leur joueur, voilà.
Ouais.
Leur possession. Hein,
leur,
oui, ça,
mais c'est vrai, c'est eux qui le font vivre.
Hein. Mais oui. Alors, on passe au hockey maintenant, car c'est le retour peut-être bientôt de Carey Price. Quelle nouvelle! Alors, le gardien vedette du tricolore, Carey Price, a pris part à l'entraînement complet de l'équipe cette semaine au Centre Bell. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Il l'avait brièvement repris, vous rappelez, au mois de mars, mais il a vite abandonné, il ne sentait pas bien. Mais cette fois-ci, ça semble sérieux. Le vétéran semble en pleine forme. Son coéquipier d'ailleurs, Brandon Gallagher, a répondu à la presse à sa place. On sait que Carey Price n'aime pas trop répondre à la presse. Hein.
Carey parle jamais. Là. Je ne l'ai jamais, vu,
jamais.
Je l'ai jamais vu en entrevue. Hein.
Exact. C'est souvent ses coéquipiers qui parlent pour lui.
Mmh.
Alors, il a dit, Gallagher, il travaille fort. Il a dû traverser plusieurs épreuves cette saison. J'espère qu'il sera de retour très bientôt pour disputer un match avec nous. Nous sommes heureux de le revoir. On sait ce que ça représente pour lui.
Ah oui.
Alors,
et pour lui et pour l'équipe aussi.
Et pour l'équipe, ça c'est sûr, il compte sur lui. Hein.
Voilà.
Toutefois, le mystère demeure pour un premier match de la saison encore. Alors, l'entraîneur Martin Saint-Louis n'a pas voulu s'avancer sur une date. Il a dit, c'est le fun de le voir sur la glace. Nous sommes contents, mais j'ai aucune idée de la date de son retour. Voilà, il a fermé la porte bien claire.
Okay.
Ce qui semble par contre plus certain, c'est que Price, il a dit, je veux jouer, et ça très vite. Alors, il veut acquérir une confiance pour venir donc participer à la prochaine saison, peut-être, on ne sait pas. Hein. Alors, on va voir. Nous sommes quand même déjà en avril.
Mmh.
Donc, au golf, c'est le retour aussi de Tiger Woods, mais cette fois salé pour de vrai, car le suspense a duré jusqu'à hier.
Le tigre est de retour.
Le tigre est de retour, et pas dans n'importe quel tournoi, au ouais. tournoi des maîtres d'Augusta, en ouais. Géorgie.
Ouais.
Alors, il faut se rappeler que ce tournoi est un des quatre grands chelems. Comme au tennis, hein, il y a un grand chelem de quatre tournois.
Oui.
Il fait partie des quatre grands, ce tournoi-là. Et le premier, ça se passe en Géorgie, parce qu'il fait très humide, très chaud. Alors, on a eu un suspense hein, toute la semaine. Il vient pas. Ah, on l'a vu s'entraîner mercredi. Il s'est présenté aujourd'hui, donc à sa première ronde, qu'il a complétée. J'en ai vu une partie cet après-midi, intéressant. Il y en a quatre en tout, donc, de ce grand chelem, de ces rondes, pardon, jusqu'à dimanche. Chaque jour, il y a une ronde jusqu'à dimanche. Alors, rappelons qu'il a subi un grave accident de la route il n'y a même pas un an, il y a 13 mois presque, à la question d'un journaliste mardi. Il lui a dit, le journaliste, pensez-vous que vous pouvez gagner le Masters cette semaine? Il lui a demandé un journaliste, donc lui, il a répondu oui. C'est tout. Ouais.
Qu'est-ce que tu voulais qu'il donne comme réponse? Je suis pas venu, il n'est pas venu pour pète quand même.
Ben, il pourrait dire, je viens pour participer, je commence, hein, parce qu'il s'est plaint de beaucoup quand même. C'est pour ça, je reviens. Soyons sérieux deux minutes. Alors, le tigre a déclaré aux médias, ça sera un défi par contre difficile, mais je suis prêt à le relever. Soulignant qu'il n'a pas pris part à un tournoi compétitif de la PGA depuis son épouvantable accident, donc rappelons-le, en février 2021.
C'est ça, c'est
alors,
ça,
à cause
c'est
de
vrai.
Cet accident, il a dû subir des opérations majeures à la jambe. Moi, je ne savais pas qu'on a failli l'amputer, Fulgence. On a failli lui enlever sa jambe.
Oui, j'ai lu ça quelque part, jamais vu.
Mais là, là.
Ouais, c'était grave. C'était pas juste un petit bobo, là. Ouais.
Donc, c'était presque fini pour lui dans la tête. Hein.
Presque,
donc, ça doit être miraculeux qu'il soit là. Il doit être content. Mais je l'ai vu jouer, Fulgence, et honnêtement, il souffre. Il souffre comme il l'a dit, il est honnête, il l'a dit d'ailleurs. Par contre, les gens se posent la question, donc pourrait-il marcher 18 trous d'un parcours pendant 2 voire 4 jours consécutifs? Un doute qui a été alimenté par le joueur lui-même, parce qu'il a dit « je suis fatigué » et il a précisé « je peux très bien frapper une balle, je n'ai aucun doute sur ce que je peux faire sur un plan de golf ». Mais la marche est la partie la plus difficile.
Et
pour
la plus
ce
difficile
moment.
Pour lui. Ouais.
Et je l'ai vu marcher, Fulgence. À un moment donné, il a eu à marcher. Parce qu'il n'y a pas de voiturette dans ce tournoi. Hein, il n'y a pas de voiturette dans ce tournoi d'Augusta. Il doit marcher. Alors, en tout cas, il y a certains parts où il doit marcher. Et tu vois, il grinçait des dents. Tu sais, il serrait ses dents comme ça. Je pense
pourquoi il ne faut pas d'exception là pour.
Parce que le terrain est spécial. Hein. D'ailleurs, qui est magnifique. Aujourd'hui, pop. Oh là là. Hein. C'est spectaculaire. Alors, voilà. Donc, on se rappellera qu'en 2019, attention, il a été couronné pour la 5e fois devant une foule enflammée à Augusta, devant une foule enflammée. Il a été le triompheur et le gagnant d'Augusta, justement, 11 ans après son titre majeur précédent. Donc, écoute, les gens, là, dès qu'il marchait, Fulgence, aujourd'hui, un petit peu, les gens criaient, hurlaient, se levaient, l'applaudissaient. Il était même un peu gêné, tu sais, il faisait un petit signe de la main comme ça.
Les petites vidéos que j'ai vues avant de venir, les gens ont dit que quand il est là, le nombre de spectateurs double ou bien triple même.
Mais les gens sont là pour le voir. Il y en a plein qui sont là pour le voir.
Pour voir le tigre.
Alors, écoute, à un moment donné, c'était le silence. Parce que quand il s'apprête à jeter, vous me permettrez cette petite anecdote. Il s'échauffe un petit peu avec son bras. Hein.
Oui.
Là, c'est le silence, la foule est silencieuse. Fulgence, on entend les oiseaux faire tiou, 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 tiou.
Ouais.
Et là, il lance. On attend le souffle le suspendu. Là, la balle tombe et les gens hurlent. c'est l'ambiance d'Augusta en ce moment, les chanceux. Alors voilà. Donc, il a profité dans un gazouillis d'ailleurs hier pour féliciter la golfeuse de 16 ans, Anna Davis, qui a remporté samedi dernier le championnat féminin à Augusta.
D'ailleurs, il faut dire merci à Tiger Woods, qui a rendu ce sport très populaire, hein, il faut le dire.
Oui, 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 même les gens qui n'aiment pas le golf.
Le golf, c'est moi y compris.
Moi pas encore, tu vois, malgré Tiger Woods,
j'aime le golf, depuis qu'il a...
Moi, regardez, pas trop, et comme je n'ai jamais joué, alors...
Et puis, n'oublie pas, il est le seul noir à évoluer.
Il est élégant. Hein, il était aujourd'hui avec, je te dis, un haut rose flamboyant. On ne voyait que lui-même de loin sur le green vert. Hein.
Oui.
Il fait ça pour qu'on le voit de loin.
Myriam,
oui.
Ça me fait penser à Lewis Hamilton dans le Formule 1, dans Formule 1, dans le F1. Il est le seul aussi, le seul noir là-bas.
Oui.
Oui
c'est, alors, ouais. C'est des gens, bien sûr, qu'il faut souligner.
Ouais.
Je finis avec une petite histoire.
Oui, rapidement.
Un don historique pour les médaillés olympiques et paralympiques. Je vous rappelle, je vous avais dit que les paralympiques ne recevaient aucun sou avec une médaille olympique. Et ben, l'entrepreneur canadien Sanjay Malavia a fait un don historique de 1,2 million de dollars en soutien direct aux médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo et Pékin 2022, figure-toi. Alors la Fondation olympique
canadienne... C'est pas athlète ou bien c'est la somme totale?
La somme totale.
Ok, d'accord.
La donnée qu'ils vont distribuer, et justement, oui, sur 130 athlètes olympiques et 53 athlètes paralympiques qui recevront donc ce don. Un net changement de cap pour les athlètes paralympiques qui ne recevaient, comme je vous l'ai dit, aucun sou pour leur médaille. Donc ils sont vraiment contents, les paralympiques.
Alors.
J'espère que ça va être un catalyseur pour que d'autres puissent faire des dons, telle la générosité de M. Saint-Jean.
Il va falloir, Myriam, il va falloir qu'on mette sur pied une pétition pour que les paralympiques aussi reçoivent du...
Incroyable.
Voilà, du
oui.
Incroyable,
mais
vrai.
Parce que les autres reçoivent quand même une valeur de 10 000 à 15 000 dollars par médaille. Hein.
C'est ça, il va falloir qu'on mette une pétition sur place pour sur pied, pour que les gens puissent penser à eux aussi, quoi.
Et dont ce montant de 1,5 million, donc il y aura 100 dollars qui sera versé directement pour la prochaine génération des futurs athlètes olympiques et paralympiques. Alors voilà, je finis sur cette note positive.
Merci beaucoup, Myriam.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye.
Bon week-end à toi, Myriam.
Merci, vous aussi.
Ouais, bye bye. Ah, c'était qui ça? C'était Incognito, le groupe, avec la voix de Justin Brown, Always There. Voilà, je vais parler un peu de danse. Sao Paulo Compagnia de Dança. Oui, voilà, programme simple. Ça a commencé hier. Aujourd'hui, c'est le 7. C'est le 7, le 6, le 8. Le 6, le 7, le 8, le 9 avril. 20h, Théâtre Maisonneuve. Voilà, en quelques années, la Sao Paulo Compagnia de Dança s'est imposée comme une compagnie phare de l'Amérique latine. Ouais. Il faut aller les voir. Edouard Locke, qui est un somptueux ballet noir, il y a Cassie Abranches et la folle énergie du Brésil, Marco Goeke et son fiévreux pas de deux. Une soirée irrésistible pour ceux qui aiment la danse. N'hésitez pas, faites le petit saut là-bas. Allez-y les voir. C'est jusqu'au 9 avril. Ça a commencé hier, 16, 6, 7, 8, 9, au Théâtre Maisonneuve. Voilà. Et puis, il y a côté danse aussi, toujours Crypto Guillaume Côté, le 11, le 12, le 13, le 14 mai, 21 au Théâtre Maisonneuve, danseur étoile et chorégraphe associé du Ballet National du Canada, Guillaume Côté dansera cette fois-ci dans sa propre création. Voilà, ballet contemporain, théâtre et technologie forment ce récit chorégraphique novateur, une fable moderne portée par quatre danseurs exceptionnels. Allez-y, ne ratez pas le 11, le 12, le 13 et le 14 mai. Allez-y. Pour ceux, les amoureux de la danse, je ne sais pas, ou bien ceux qui veulent s'intéresser maintenant à la danse, allez-y profiter de ces opportunités-là. Voilà. Avant de passer à la petite pause publicitaire, je vais parler un peu de filière batterie. Recyclage lithium. Voilà, ça c'est comme ça. Benoît Couture qui présente sa compagnie, sa nouvelle compagnie, président de Recyclage Lithium. C'est une usine de recyclage qui va voir le jour dans la région de Montréal, hein, bien sûr. Et elle a construit à cet été une usine de récupération des batteries de véhicules électriques dans la région de Montréal avec l'aide du gouvernement québécois. C'est intéressant, non? Il faut en parler. Voilà, quand Nicolas va acheter sa voiture électrique, on a la batterie va être recyclée là-bas. Alors, l'annonce a été faite vendredi passé, en compagnie des ministres Pierre Fitzgibbon à l'économie et Benoît Charrette à l'environnement, de même que Guy Leblanc, le grand patron d'Investissement Québec, bras investisseur du gouvernement. Québec accorde 22,5 millions à Recyclage Lithium. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Alors, il s'agit de la deuxième tranche d'un financement de 125 millions de dollars. La première tranche a été annoncée en janvier dernier d'ailleurs. L'argent sert à la construction d'une première usine commerciale de recyclage de batteries lithium-ion. Lithium-ion, intéressant. Donc ça va être une usine de broyage de batteries lithium en poudre noire qui va disposer d'une capacité de traitement de 7500 tonnes de batteries par année. Et c'est beaucoup, hein? 7500 tonnes de batteries par année, soit l'équivalent des batteries de 25 000 véhicules électriques. Alors, comme je disais, quand Nicolas va avoir son véhicule électrique, c'est là-bas que sa batterie va être recyclée. Nicolas, c'est mon complice à la technique là-bas. Donc, la construction commence cet été et l'usine sera fonctionnelle en 2023. C'est-à-dire, je ne dis pas dans 10 ans, là, c'est l'année prochaine. Là. 2023, c'est l'année prochaine. Donc, le choix du site n'est pas encore officiel. Dit d'ailleurs le président de Lithium, Benoît Couture, il va falloir que je fasse un effort pour l'avoir ici en entrevue, pour venir parler de ça, de ce beau projet, pourquoi pas. On dénombre environ 133 000 véhicules électriques immatriculés au Québec pour le moment. 133 000, c'est beaucoup, hein? Ouais. On n'est pas tous des récalcitrants, mais de toutes les façons, il faut le dire, si vous décidez de prendre un véhicule électrique, vous avez des subventions du fédéral et du provincial, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça continue d'ailleurs. Je dois continuer, voilà. Donc, la société québécoise va ouvrir aussi un centre de 108 places qui sera chargé de l'ingénierie détaillée d'une future usine d'hydrométallurgie dont la construction doit commencer aussi en 2023. Ça, j'en parle parce que c'est des beaux projets. Ça concerne l'environnement, changement climatique. Oui, les recyclages. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont mes sujets de prédilection. Ouais. Alors, on parle. Je suis un gros croyant que les mines vont être urbaines dans 15 ans. a confié le ministre Fitzgibbon lors d'une rencontre d'ailleurs. Il dit où l'adoption des véhicules électriques va atteindre un plateau, on espère. Alors, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va recevoir Éric Dussault, historien, conférencier, prof, qui va nous parler de son livre. Ouais, son livre Paris, moments phares et symboles. Allez, à tout de suite. Vous découvrez les moments phares et les symboles de Paris.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Bienvenue dans les rues de Paris. Ici, y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique infrie, on se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici, c'est Paris. C'est Paris. Il y a des gens sur les marchés, il y a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrêtent à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris. C'est Paris.
Bienvenue à Paris. Vita, c'est la chanteuse, et bienvenue à Paris, c'est le titre de la pièce qu'on vient d'écouter. L'invité est déjà au bout du fil, Éric Dussault, qui va nous parler de son livre Paris, moment phare et symbole. Voilà, Paris, la ville la plus visitée au monde, ne serait-ce pas ce qu'elle est, sans ses symboles et ses moments phares de la première exposition universelle en 1855 à l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés entre 1945 et 1960, Éric Dussault raconte les moments clés de l'histoire culturelle et intellectuelle de la capitale française et rappelle, par la visite de ces lieux emblématiques, ses nombreuses transformations ainsi que son rayonnement extraordinaire. Voilà, Éric Dussault, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien, conférencier, un professeur, vulgarisateur et guide historique. Il a vécu pendant 5 ans en France, bien sûr, et a obtenu son doctorat en histoire culturelle et européenne en 2011 à l'Université York de Toronto. Il collabore à Aujourd'hui l'Histoire depuis la création de l'émission à ICI Radio-Canada Première. Bonjour Éric Dussault.
Bonjour Monsieur Blas.
Oui, comment allez-vous? Appelez-moi Fulgence simplement, Monsieur Blas, c'est trop gros.
D'accord, Fulgence, enchanté de faire votre connaissance.
Oui, c'est ça, moi aussi. Merci de partager ce bijou, moi je l'appelle bijou, ce bijou avec nous. Alors, je vais dire tout de suite, pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris, même si vous êtes déjà allés à Paris, que vous ne connaissez pas beaucoup, vous n'avez pas visité assez de lieux, allez-y, ce livre est en librairie depuis le 8 février, allez-vous le procurer, mettez-le dans votre sac, dans la poche de votre veston quand vous serez à Paris. N'hésitez pas, ouvrez-le chaque fois pour aller découvrir tous ces lieux que Éric Dussault décrit dans ce livre de 210 pages. Merci beaucoup à vous pour ce beau cadeau que vous nous faites avec ce livre.
Ben, merci à vous de me donner la possibilité d'en parler aujourd'hui. C'est aussi un cadeau.
Oui.
C'est un livre que je destine au grand public. J'ai d'abord eu une carrière universitaire, donc j'ai mené des études poussées, mais tout ça, ça demeure toujours entre initiés, si on peut dire.
Oui.
Mais ça m'importe beaucoup, 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 particulièrement depuis les 10 dernières années,
oui,
de transmettre ce savoir, ces connaissances au plus grand nombre de personnes possible.
Oui.
Donc, toute la question de la vulgarisation, la transmission d'une passion qui est Paris,
oui,
c'est très important pour moi. Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire ça aujourd'hui avec vous.
Le merci est à vous. Le merci est à vous d'avoir le temps d'abord et d'avoir pris le temps d'écrire ce livre et d'avoir le temps de nous parler de ça. Mais Éric, entre nous, comment l'idée vous est venue? C'est pas parce que vous avez vécu en France 5 ans que l'idée vous est venue. Il y a des lieux que je connais pas ou bien qui sont inconnus. Vous êtes historien d'abord. C'est comme ça que l'idée est venue de mettre ce livre-là. Voilà.
Ben, en fait, je suis un collaborateur de l'émission Aujourd'hui l'Histoire depuis sa création en 2014 ou 2015. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas,
oui,
c'est une émission de radio qui est diffusée tous les soirs de la semaine à Radio-Canada Première.
Oh.
Ça a changé de nom depuis, là, on dit ici Radio-Canada Première.
Oui.
Et donc, à tous les soirs, il y a une émission d'histoire, sauf le vendredi, qui est diffusée. Ça dure une trentaine de minutes.
Oui.
Et donc, si on enlève la publicité, ce qu'on appelle les autopromotions et tout ça, et les archives,
oui,
ça me fait grosso modo entre 17 et 23 minutes pour résumer une thématique.
Oui.
Moi, je fais beaucoup d'émissions consacrées à l'histoire de Paris et de la France.
Ah ouais.
Donc, ce sont des émissions. Il y en a 8 que j'ai faites avec Aujourd'hui l'Histoire.
Oui.
Il y en a une que j'ai faite avec le comédien Marc Labrèche, qui est aussi animateur à Radio-Canada,
oui,
à la radio, pas seulement à la télé, mais à la radio aussi.
Oui.
Et donc, le chapitre consacré au souterrain de Paris, qui se trouve être le 9e chapitre, le dernier,
oui,
c'est une commande qui avait été faite par Marc Labrèche. Donc, il y a un mélange. 98% de l'ouvrage est inspiré de mes émissions déjà diffusées à Aujourd'hui l'Histoire. Et dans un cas sur 9, donc c'est l'émission avec Marc Labrèche.
Oui.
Donc on est parti d'émissions de radio et on m'a demandé de mettre certaines de ces émissions-là sous forme écrite, mais il ne s'agit pas d'une transcription pure et simple.
Mmh.
Il fallait évidemment rendre ça intéressant sous forme écrite avec un récit. Il s'agit de raconter. Donc, c'est ça mon objectif, c'est de raconter l'histoire de Paris, en tout cas une partie, hein, parce qu'évidemment, en 200 pages, on ne peut pas raconter toute l'histoire de Paris.
Oui, oui,
mais c'est
clair.
C'est une partie de l'histoire de Paris.
Mm-hmm. Mais vous nous avez fait découvrir quand même une bonne partie de l'histoire de Paris, des monuments phares et symboles même, parce que tout ce que moi j'ai vu dans ce livre-là, je me suis dit, si je dis que je connais tout, je suis un gros menteur. C'est vrai. Éric, je vous le dis, sincèrement, vous m'avez fait découvrir des endroits dans ce livre-là. La prochaine fois, quand je vais retourner à Paris, je vais avoir votre bouquin dans la poche de mon veston.
Il a justement la forme pour ça, Fulgence. Vous avez remarqué, c'est un petit livre,
oui,
pas très épais. Et ça entre dans la poche d'un veston, donc c'est parfait.
Oui, c'est ça, c'est un livre de poche, les moments phares. Alors, comment est-ce que vos collègues historiens ont accueilli ce livre?
Ah ben écoutez, c'est sûr que vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le 8 février, il y a quelques critiques qui sont sorties, essentiellement au Québec. Votre question est intéressante parce que je n'ai eu qu'une critique en France d'une universitaire,
oui,
et elle est bonne.
Oui.
Donc, je suis content.
Oui.
Y a une historienne, donc professionnelle, une universitaire qui a aimé la lecture, qui,
oui,
a reconnu que c'était un ouvrage populaire, que c'était destiné au grand public.
Oui, oui.
Et qui, en même temps, a aussi reconnu que les sources sont importantes, que le travail de recherche est important. Donc, ça me rassure parce que ce n'est pas parce qu'on s'adresse au grand public, ce n'est pas parce qu'on fait de la vulgarisation que pour autant, on n'est pas exigeant quant à l'exactitude des faits. Et ça, pour moi, ça m'importe énormément.
C'est pas moi qui vais dire le contraire parce que je sais que vous avez fait de très bonnes et très grandes recherches. Tout est là-dedans, là.
Ben, en fait, ça m'étonne même qu'on en parle, Fulgence, parce que c'est le propre de l'historien que de faire des recherches.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on est à une époque où on publie un peu tout et n'importe quoi, où tout le monde s'improvise spécialiste ou auteur. Et je pense que la façon de se... Non, mais c'est vrai.
Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, ouais.
Et donc, une des façons de se distinguer, selon moi, c'est vraiment de fignoler son travail, de vérifier, contre-vérifier, s'assurer que on démythifie. Ça, c'est mon autre préoccupation, démythifier.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Paris qui visent à plaire au lecteur, au public.
Oui.
Or, je veux plaire au lecteur, mais je veux surtout lui faire prendre conscience que certaines choses qui ont été affirmées ne sont pas totalement vraies, qu'on leur a caché un certain nombre d'informations importantes. Si vous me permettez, Fulgence, je pourrais donner l'exemple de la Belle Époque.
Allez-y.
Belle Époque.
Oui.
Mais la Belle Époque, elle s'appelle Belle Époque depuis seulement les années 1950-1960. Pourtant, on parle des années 1896 jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc c'est avant la Première Guerre mondiale.
Oui.
Mais ça prendra 4 à 5 décennies avant que le terme Belle Époque soit adopté par les historiens.
Oui.
Mais Belle Époque, est-ce que c'est une belle époque pour tout le monde?
Oui,
ben, je réponds à la question dans le livre. La réponse, c'est évidemment oui.
C'est la page à la page 32 du livre. La Belle Époque est-elle pour tout le monde?
Ben, la réponse, c'est ça, c'est oui et c'est non. Ça dépend de la catégorie sociale à laquelle on appartient.
Oui.
Donc, si on est riche, si on est pauvre, si on est une femme, si on est un homme, si on a été privilégié par ses origines familiales, son éducation ou pas.
Si on est descendant des colonies françaises.
Ah, ben oui. Et là, ça me plaît ce que vous dites, parce que j'ai une grande sensibilité pour les minorités.
Oui.
Peut-être parce que je suis québécois et que j'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours été très conscient du statut minoritaire de québécois francophone. Et ça a alimenté mon travail de chercheur, ce qui explique pourquoi, par exemple, les Noirs occupent une grande importance dans ce livre de 200 pages.
Oui.
Tout comme les femmes et même les homosexuels dont je parle, notamment à l'époque de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi durant ce qu'on appelle les années folles, les années 20. C'est pas pour être à la mode, hein.
Non, c'est pas comme ça. Quand moi j'ai lu, Eric, quand j'ai lu cette partie-là, je n'ai pas pensé du tout à ça. J'ai pas du tout pensé à ça. Là, il faut être clair, il faut être sincère. Je me suis dit, il n'a laissé rien au hasard. Et il a tout, il a touché à tout, comme vous le dites. Étant en minorité en Amérique du Nord, en tant que Québécois, le sujet vous concerne aussi, Eric.
Bah oui, puis actuellement, évidemment, ce sont des questions qui sont abordées abondamment dans les médias.
Oui.
Moi, je suis pas noir, mais la question noire me préoccupe. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest, au Mali et au Bénin. J'ai été coopérant.
Oui.
Donc, je connais l'Afrique. J'ai vécu là-bas presque 2 ans. Et cette question-là m'intéresse beaucoup. Et c'est important que dans mon travail, j'en parle. On n'a pas besoin d'être noir pour parler des noirs, mais ça m'apparaissait important de redonner la place aux noirs, celle qui leur revient, parce qu'elle est super importante dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale.
Wow. Ouais. J'étais surpris de tomber sur ça, d'ailleurs. Je me suis dit, un Québécois qui parle de ça dans son livre, c'est rare quand même. C'est rare.
Mais en fait, c'est simplement parce que ça s'impose. Au même titre que l'homosexualité, lorsqu'on s'intéresse à Saint-Germain-des-Prés, ça croise notre route.
Oui.
On n'en parle jamais.
Oui.
Mais si on est un chercheur sérieux, Moi, je ne savais pas que Saint-Germain-des-Prés était le quartier gay à Paris après la guerre.
Oui.
Aujourd'hui, le quartier gay à Paris, c'est le Marais.
Oui.
Mais avant le Marais, c'était Saint-Germain-des-Prés.
Mm-hmm.
Il y avait des Vespasiennes, des pissotières, appelez ça comme vous voulez, des toilettes publiques,
oui.
Où les hommes se retrouvaient pour s'octroyer des petits plaisirs parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre endroit.
Oui.
Mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ce sont mes recherches qui m'ont amené à découvrir que Saint-Germain-des-Prés était le quartier gay.
Oui, oui, oui. Oui.
Juliette Gréco, Boris Vian, tous les gens qu'on connaît qui sont associés à ce quartier,
c'était
n'en
connu.
Parlent pas.
Oui, c'était
alors, c'est la même chose pour les Noirs.
Oui.
Ils se sont imposés à moi. Je les ai pas cherchés. Ils se sont imposés. Je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que j'en parle.
Oui, oui. Merci beaucoup, Eric. On fait une petite pause musicale. On va parler de Paris avec une chanson de Jacques Dutronc qui dit « Il est 5 heures, Paris s'éveille ».
Oui.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris se lève, Paris s'éveille, je n'ai pas sommeil. Bon ben, voilà, ok, quand on va à Paris, c'est beau. Je suis toujours avec, mon invité est toujours avec moi, Éric Dussault, auteur du livre Paris, moment phare et symbole, historien, conférencier, professeur, vulgarisateur et guide historique. Il apparaît pas dans ce livre des expositions universelles de Paris de 1855 à 1937, la belle époque 1896 à 1914, et les années folles à Paris et à Berlin, et puis la jeunesse intellectuelle de droite de 1950 à 1962, et le mythique Saint-Germain-des-Prés dont on a parlé en première partie de notre conversation, d'après-guerre, la Seine, les Halles, la basilique du Sacré-Cœur, de mon, les souterrains de Paris. Allez, je laisse la parole à Eric. Il n'a rien oublié et tout. Ça, c'est des endroits vraiment intéressants. Vous n'avez rien oublié, Eric.
Il faut quand même être modeste, Fulgence. Je rappelle que c'est, C'est un petit livre de 200 pages, donc c'est sûr qu'on ne peut pas traiter de tout, mais j'ai essayé de...
L'essentiel.
C'est un livre personnel. C'est moi qui essaie de donner au lecteur ma perspective sur l'histoire de Paris.
Oui.
Donc, ce sont mes choix et aussi mes oublis. Certains pourraient me reprocher certaines choses que j'ai laissées de côté, entre autres la Tour Eiffel, mais je m'excuse, mais c'est tellement évident, la Tour Eiffel, c'est presque comme parler de ma ville natale, Québec, et du château Frontenac. C'est un peu un cliché.
C'est du classique, c'est du standard. Voilà.
Ouais.
Ou bien vous en parlerez dans un tome 2.
Ben, en fait, il y aura un tome 2.
Voilà.
Et ce sera d'autres thématiques que j'ai abordées à l'émission aujourd'hui d'histoire qui sont mises à l'avant-plan.
Oui.
Ce ne sera pas uniquement Paris, ça va être l'histoire de France qui va être abordée à travers ça.
Ah.
J'ai aussi traité de l'histoire de l'Afrique à aujourd'hui l'histoire, notamment de la guerre d'Algérie,
qui est
très importante pour comprendre la France d'aujourd'hui, la France d'hier, mais aussi la France d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Alors, c'est vaste l'histoire de France, alors ça nécessite plusieurs livres pour en faire le tour.
Oui, c'est vrai, effectivement, parce que ce livre de poche de 210 pages là, que j'ai en main, je l'adore, je dis, comme je vous l'ai dit, quand je serai à Paris prochainement, je l'aurai dans la poche de mon veston, et puis des lieux que vous m'avez fait découvrir dans ce... Ouais, je me dis, mais il faut le voir. Moi, les souterrains de Paris, je ne connais pas, ça c'est clair. Parlez-nous un peu des souterrains de Paris pour ceux qui ne sont jamais descendus là, comme moi par exemple. Moi, je l'ai lu, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Oui.
Ouais, ben en fait, ce qui est extraordinaire, et c'est comme ça que je termine le livre, c'est en disant que la mythologie de Paris, elle est aussi existante à 20 mètres sous terre.
C'est ça.
Parce que il y a les catacombes, évidemment, que certaines personnes connaissent. Donc, on a déplacé. Les ossements autour de 1785-1786, donc au 18e siècle, on a déplacé ces ossements-là du cimetière des Innocents et on les a amenés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les catacombes.
Oui.
Et donc, à 20 mètres sous terre, on a un ossuaire qui fait 1500 mètres, donc 1,5 km de longueur, mais qui ne représente que 1% du réseau des galeries souterraines. Alors, ça veut dire qu'il y en a 99% de plus de galeries souterraines dans lesquelles on peut se promener. Et d'ailleurs, il y a des gens qu'on appelle les cataphiles, encore aujourd'hui, qui aiment beaucoup aller sous terre pour visiter, dans certains cas pour faire des fêtes. Et je raconte des anecdotes, entre autres le fait que certaines personnes se perdent parce que c'est vraiment tout un labyrinthe.
Oui.
Et lorsqu'on n'est pas habitué d'aller sous terre, c'est quand même dangereux. Je raconte aussi un concert qui a eu lieu dans les souterrains de Paris en 1897.
Oui.
Et je ne veux pas donner trop de détails parce que j'aimerais que le lecteur puisse c'est quand même incroyable. On organise un concert à 20 mètres à la fin du 19e siècle. Mais franchement, quelle ville peut se vanter d'avoir fait une chose comme celle-là?
Une ville avant-gardiste à l'époque.
Oui, tout à fait. Et il y a les égouts de Paris qu'on va visiter dans ce chapitre-là, à bord des bateaux et des wagons qui permettent d'entretenir les égouts. Je parle aussi de... Moi, je suis nostalgique, peut-être parce que je suis historien, mais il y a des choses qui ont disparu qui m'attristent, notamment ce qu'on appelle la poste pneumatique. Donc, entre 1866 et 1984, donc pendant 118 ans, il y a un service de communication souterrain qui fait en sorte que vous habitez dans le 5e arrondissement de Paris, moi j'habite dans le 12e, et on peut s'envoyer des messages sous terre grâce à la poste pneumatique. Et je raconte comment ça fonctionne,
ce
système-là dans le livre.
C'est...
Bon.
Ne donnez pas tous les secrets. Eric, s'il vous plaît, ne donnez pas tout ce qui est à l'intérieur du livre.
Mais non. Mettre en appétit.
C'est ça. J'ai beaucoup aimé le milieu littéraire et intellectuel sous le contrôle du pape de l'existentialisme. Ça, j'ai adoré cette partie-là aussi. Avec
Jean-Paul Sartre.
Avec Jean-Paul Sartre, oui.
Ben, en fait, c'est que beaucoup de gens savent qu'après la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Sartre devient une personnalité très importante et ça va durer plusieurs décennies,
oui.
Presque jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il va même venir au Québec pour soutenir certaines grèves, certaines revendications syndicales.
Oui.
C'est vraiment le premier intellectuel médiatique de l'âge de la télévision. Et Sartre devient célèbre au moment où la télévision fait son apparition.
Oui.
Au moment où ses images vont être diffusées partout dans le monde.
C'est ça.
Alors, il va prendre part à toutes sortes de combats et tout ça, mais on a l'impression qu'il est seul, qu'il règne en roi et maître sur le Paris de l'après-guerre.
Mm-hmm.
Or, j'explique qu'il y a quatre jeunes baveux, comme on dit au Québec,
oui.
Quatre jeunes audacieux, Roger Nimier, Jacques Laurent, Antoine Blondin et Michel Déon,
oui.
Qui sont à droite de l'échiquier politique, qui sont donc à l'opposé de Jean-Paul Sartre, qui est vraiment très à gauche,
mm-hmm.
Et qui vont s'attaquer à lui, qui vont s'attaquer à ses idées, à sa façon de voir le monde après la Seconde Guerre mondiale. Et encore là, il s'agit de démythifier une légende selon laquelle Jean-Paul Sartre est le roi à l'époque.
Ouais, vous les
Alors qu'il y a quand même des gens qui osent s'attaquer à lui et ça mérite d'être dit. Je
pense. Oui, c'est ça. Vous les appelez les quatre principaux hussards.
Oui, voilà. On les appelle les hussards.
Oh, ouais.
Et en lisant le chapitre, vous allez comprendre pourquoi on les appelle comme ça. Mais ce sont des petits morveux, là. Vraiment des gens qui sont forts en gueule, qui maîtrisent très bien la langue française, qui
oui.
Utilisent la plume un peu comme un sabre. Et qui sont tout à fait prêts à faire de l'escrime avec Jean-Paul Sartre.
Avec Jean-Paul, ouais. Merci.
Ouais, ben, tant mieux si ça vous a plu.
Non, j'aime, j'adore. Merci beaucoup, Éric Dussault, historien, conférencier, professeur, vulgarisateur et guide historique. Merci pour ce bijou. Paris, moment phare et symbole, qui est en librairie depuis le 8 février. Allez-y, cherchez votre copie. Chers auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore, vous n'allez pas le regretter. Merci à vous et au plaisir d'avoir le tome 2.
D'ici. Oui. Donc je dois rendre le manuscrit cet automne. Alors ça sera
déjà.
Pour l'année prochaine probablement.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci
Bonne soirée.
Merci. Merci aux auditeurs aussi. Au revoir.
Merci. Au revoir. Yes, c'était Naman avec la complicité de qui? La complicité de Marcus Gad, Soul Plan. Voilà, merci beaucoup à toi Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, le lundi, parce que tu n'es pas là demain avec moi. Voilà, et puis on dit merci à notre invité, Eric Dussault, historien, qui est venu nous parler de son livre Paris, moment phare et symbole. Et merci à Myriam Larache, qui est venue nous donner les nouveautés sportives. On dit merci à nos fidèles auditeurs, voilà, comme toujours, qui suivent cette émission depuis le début. Et puis, bon ben, prenez soin de vos minutes, c'est très important. Oui, et je vous dis ciao.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis une liqueur.
Et surtout à ça.
Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.